Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous et voici la suite de l'épisode avec Nicole Magana Shiver, coach en hygiène naturelle infantile, élimination communication en anglais et potty training, entraînement à la propreté. Bonne écoute! J'ai une question que je ne t'ai pas posée, peut-être que certaines personnes se posent la même d'ailleurs. Si pendant la journée tu pratiques le C, est-ce que tu leur mets quand même une couche même s'ils ne l'utilisent pas? Ou ils restent nus ou avec des vêtements? Enfin, comment tu fais?
Ça va changer la vie de ton bébé et ça va être ce qui fonctionne le mieux pour toi. Quand on parle de solution de secours, ce n'est pas forcément une couche. C'est aussi une des raisons pour laquelle on l'appelle une solution de secours. On a des sous-vêtements d'entraînement, ce sont des sous-vêtements avec beaucoup de rembourrage qui sont absorbants au milieu. Et donc ça peut attraper un pipi entier. Et si ça arrive jusqu'à ton tapis, ça va être quelques gouttes et pas tout le pipi, quoi. Il y a aussi les couches culottes en tissu qui vont avoir de la polaire à l'intérieur et tu peux les mettre par-dessus les sous-vêtements d'entraînement. Il y a des pantalons qui sont ouverts au milieu, on les appelle des split crotch pants ou à l'entrejambe fendue. Et d'ailleurs, les bébés en Chine les portent tout le temps. Les bébés en Chine portent les pantalons fendus à l'entrejambe à partir d'un an, je crois. Parce que comme ça, ils peuvent juste s'asseoir sur le pot, ils n'ont pas besoin d'enlever quoi que ce soit. Mais tu veux utiliser la solution de secours qui permet à ton bébé d'envoyer les signaux les plus forts possibles, si tu essayes de faire de l'EC à temps plein, et ça les aide à rester au sec le plus longtemps possible. Donc souvent, c'est un peu d'expérimentation, d'essai, d'erreur. Nous, on a utilisé des couches jetables pendant environ, enfin, au moins les premiers mois, même si on faisait de l'EC. Non, pas toute la journée. Parfois, je faisais du temps sans couche, juste parce que ça les aide à prendre confiance. Mais je leur mettais toujours quand on sortait de la maison. Et j'ai aussi les couches en tissu, les réutilisables. Et toujours la nuit. Parce que mes bébés, si je leur mettais des couches en tissu la nuit, ça les irritait. Et avec mon aîné, parce qu'il faisait beaucoup pipi la nuit, ça fuyait toujours partout. Peu importe ce que je faisais, ça fuyait tout le temps. Et j'ai toujours mon aîné dans des couches jetables, même si environ 9 jours sur 10, elle va se réveiller sèche. De temps en temps, elle va dormir un peu plus longtemps, manger un peu plus que d'habitude ou juste être fatiguée et pas vouloir se lever, et je comprends. Et je continuerai de faire ça tant qu'elle ça la rend pas paresseuse et qu'elle ne veut plus se lever. Je veux pas lui apprendre à faire pipi dans la couche. Mais ils vont aussi traverser plusieurs phases. Par exemple, autour du moment où ils apprennent à ramper, autour du moment où ils apprennent à marcher, ils vont commencer à... On dirait qu'ils deviennent un peu paresseux et ils vont juste faire pipi. Mais en fait, ils sont tellement occupés, leur cerveau est tellement occupé avec cet apprentissage qu'aller aux toilettes, c'est du bruit de fond. Et si tu y penses, si on vivait dans la jungle et qu'on avait une zone pour aller aux toilettes, loin de là où on vit, quand ils savent ramper, ils peuvent y aller tout seuls. Donc ils n'ont pas besoin de nous, ils peuvent ramper jusqu'à cet endroit. Et donc tous ces signaux dont on a parlé, où ils s'agitent, ils viennent jusqu'à nous, souvent disparaissent. Parce que si on était dans une, on appelle ça une culture intacte, car dans une culture intacte, dans un village, ils n'auraient plus besoin de nous pour ça.
Ouais, je comprends. Oui, c'est des phases, des cycles. Et alors la nuit, comment tu pratiques le C?
Encore une fois, ça va dépendre de si tu en as envie ou pas. On dit toujours de faire ce qui va procurer à la famille le plus de temps de sommeil possible. Parce qu'évidemment, surtout avec un nouveau-né, c'est tellement important. C'est tellement important, tu ne peux pas fonctionner dans la journée si tu ne dors pas pendant la nuit. Donc, mon bébé va se réveiller autour... Je la couche souvent autour de 1 à 2 heures avant que j'aille me coucher. Et on a juste trouvé notre rythme maintenant où elle va se réveiller juste avant que j'aille me coucher. Et donc elle va pleurer, je vais la nourrir et je la mets sur le pot. Parce que si je la mets pas sur le pot, elle va se rendormir et se réveiller rapidement après. Donc elle m'a appris que quand elle se réveille à 7 heures, environ autour de 22 heures, elle veut aller sur le pot. Donc c'est le EC du soir qu'on utilise. Et encore une fois, j'utilise des solutions de secours. Je lui mets la couche pour que si je suis trop fatiguée, si je vais au lito, c'est là comme une solution de secours, comme un outil. Et ça va changer au cours du temps. On a traversé une phase où elle ne voulait pas se réveiller. Elle dormait tout du long et elle faisait pipi dans la couche. Et elle continuait à dormir et elle allait très bien. Il y avait une phase où elle se réveillait et elle se réveillait à chaque fois. Elle voulait aller aux toilettes, sinon elle n'arrivait pas à s'endormir, donc ça change. Mais tu écoutes juste ton bébé, tu décides avec ton partenaire ou peu importe comment tu décides, ce qui est le mieux pour ta famille. Ça, c'est le truc sympa avec l'EC, que je pense que les gens ne comprennent pas toujours. Il n'y a vraiment pas de règles. Il y a tellement de façons de pratiquer l'EC. Et c'est tellement flexible pour convenir à ta famille. Une fois que tu arrives à l'apprentissage des toilettes, c'est pas aussi flexible parce que tu dois imposer des limites très claires pour ton enfant. Sinon, cet âge de développement cérébral rend ça très difficile. Ils ont besoin de limites très claires, une fois qu'ils atteignent l'âge de 18 mois, pour qu'ils puissent apprendre. Sinon, ils tombent dans les situations où les gens disent « elle va juste faire caca dans la couche ». Ou alors, elle va se retenir et devenir constipée, ou avoir des soucis. Donc, mais l'EC est tellement flexible.
Oui, c'est pour ça que j'apprécie ça. Tu n'as pas de pression à t'ajouter, juste tu suis le courant, encore.
Oui, exactement.
Quels sont les pièges classiques quand tu débutes dans cette pratique ?
J'adore cette question. Je suis trop contente que tu la poses. Une des plus grandes serait de ne pas suivre le mouvement. Être ce qu'on appelle pot centré. C'est d'être tellement focalisé et obsédé par le pot que ça perturbe le reste de ta vie. Certaines personnes... On parle souvent des économies, du coût et de l'impact environnemental. Certaines personnes sont tellement engagées à ne pas utiliser de couches qu'ils vont commencer à compter et noter à chaque fois qu'ils attrapent le pipi dans le pot ou combien de fois ils l'ont raté. On n'appelle pas ça un accident, on dit qu'on a raté, on l'a manqué. C'était un coup manqué. Et donc, ça devient super stressant. Ça devient super stressant pour à la fois l'enfant et le parent. Parce que même si on ne leur dit pas qu'il y a quelque chose dont il faut avoir peur, les enfants peuvent sentir notre attitude, notre comportement. Ils peuvent sentir ce qu'on dégage. Parce que, voilà, ils sont faits pour ça. Ils n'ont pas de langage quand ils sont nés, donc ils sont faits pour lire ce que dégagent les adultes dans leur vie. Et donc, quand on est très stressé, ils ne savent pas ce qui est effrayant. Ils savent juste qu'ils doivent avoir peur ou qu'ils devraient être stressés. Donc, être aussi obsédé par le fait de tout attraper dans le pot ou compter les couches, ça peut rendre les choses très, très compliquées. Ça peut rendre toute votre expérience de lycée très stressante. Donc on dit que si des parents se voient en train de faire ça, il faut prendre du recul. Faites une pause, remettez les couches à temps plein pendant une ou deux semaines. Faites comme si l'EC n'existait pas, donnez-vous... oui. Faites une pause, lâchez-vous du lest. Et ensuite, revenez-y avec un nouveau regard. Dites-vous, on va juste attraper ce qu'on peut, tout ce qu'on attrape, c'est de bonus. C'est pas tout ou rien, la fin du monde.
Hello les parents perfectionnistes.
Oui, j'ai pas commencé dès la naissance avec mon premier, parce que j'avais décidé que j'étais pas prête à le faire de la bonne façon. Il n'y a pas de bonne façon. On dit, comment est-ce qu'on commence ? Eh ben, enlever la couche, voilà, vous avez commencé. C'est tout. Et à partir de là, c'est tout ce qui fonctionne pour vous qui devient la pratique.
Ouais, bien sûr. Et tu sais, je pensais aux couches. Et mine de rien, je suis sûre que nos bébés n'aiment pas la sensation des couches humides. Et tu sais, d'être attachés, serrés par des couches. Tu vois ce que je veux dire ? Ça doit vraiment pas être confortable, oui. Et le pire, c'est quand tu as du caca plein la couche. Franchement, on ne pense pas à ça, mais je suis sûre que ce n'est ni confortable ni naturel pour eux.
Oui, exactement. C'est marrant, presque tous les enfants passent par une phase où ils vont résister le changement de couche. Ils ne veulent pas s'allonger et vous laisser mettre une couche. Ou même en enlever une, même s'il y a du caca. Ils ne voudront pas que vous leur enleviez la couche. Pas tous, mais certains. C'est plus une histoire d'indépendance que d'être inconfortable. Mais je sais qu'avec mes enfants, je commence à faire pour le pipi, je changeais leur couche en position debout. Juste là où ils se trouvaient, je leur mettais la couche pendant qu'ils étaient debout. Et c'est un truc tellement courant avec les parents, mais personne n'a fait la connexion avec le fait qu'ils ne veulent pas la porter. Ils veulent utiliser le pot à la place, parce que les entreprises de couches nous ont dit qu'ils n'étaient pas prêts. Et la même chose avec le fait de montrer de l'intérêt à utiliser le pot. On a ce que j'appelle chez moi une politique de la porte ouverte. Donc quand j'utilise les toilettes, la porte est ouverte. Les enfants sont dans la pièce. Bon, si tes parents, tu sais que les enfants sont toujours dans la pièce, que tu fermes la porte ou pas.
Mon chien vient quand j'y suis des fois. Ça sera une grande famille quand j'aurai en plus mes gamins dans mes toilettes.
Oui. Bah, j'allais dire, parfois le chien est dans la pièce aussi. Tout le monde est là, elle est en mode « qu'est-ce qui se passe ici ?» Exactement. Donc, tu montres l'exemple. Je suis sûre que tu as dû voir avec les enfants de tes amis, à un certain moment, ils veulent utiliser la cuillère, ils veulent prendre ton rouge à lèvres et en mettre, ou porter tes chaussures, ou passer le balai. Ils veulent faire ce qu'on fait. On leur montre l'exemple toute la journée. Ils veulent utiliser notre téléphone. Mon bébé se balade avec tout ce qu'elle peut choper en disant « Allô, allô ?» Et donc, les toilettes, c'est pareil. Et ils commencent à montrer de l'intérêt, parfois dès un an. Et les parents, bon, les entreprises de couches disent « Attendez qu'ils montrent de l'intérêt. » Et ensuite, ils le montrent. Et les parents disent « Non, non, t'es trop jeune, c'est pas possible. » Et du coup, ils ratent la fenêtre de tir. Cette opportunité. Et ce qui peut arriver, c'est que les enfants s'y habituent. C'est inconfortable. Et même si tu as utilisé les couches depuis la naissance et qu'ils étaient inconfortables, ils apprennent à les utiliser. À un certain point, ils vont montrer à nouveau et te dire qu'ils n'en veulent pas. Et c'est juste une question de faire attention à ça. Et je voulais ajouter une autre erreur que les gens font. Tu posais la question sur les pièges. Une des erreurs que les gens font avec l'EC, c'est l'utiliser trop longtemps. Quand Andrea a écrit son premier livre, elle l'a appelé EC simplifié. Et maintenant, c'est juste arrêter les couches, le manuel de l'élimination de communication. Quand elle a écrit ça au début, le plus gros problème avec les gens de la communauté de l'EC, c'est qu'ils ne clôturaient pas le process. Parce qu'ils étaient tellement contre ce qu'ils considéraient ce qu'était l'apprentissage de la propreté des toilettes, qu'ils n'apprenaient pas à leur enfant à utiliser le pot. Le C est très guidé par l'enfant. Tu écoutes ton bébé, tu observes ton bébé, tu suis ce qu'ils te disent, et tu leur donnes ce dont ils ont besoin, toute l'aide et assistance dont ils peuvent avoir besoin. Et quand tu arrives autour de cet âge de développement des 18 mois dont on a parlé, maman et papa doivent prendre les rênes et dire « Voilà les règles de notre famille. On met une ceinture dans la voiture, on s'assoit à table quand on mange, on met notre pipi et caca dans les toilettes. » Tu vois, ils ont besoin de cette structure. Leur développement cérébral et leur psychologie ont besoin de cette structure. Donc, ce que les parents peuvent faire, c'est laisser le EC traîner. Et les enfants ont tendance à vraiment y résister autour des 18 mois. Et ensuite, ils font pipi dans leur couche constamment. Ou même certaines personnes, parce qu'elles sont tellement contre le fait d'utiliser des couches, vont avoir leur enfant qui urine dans leur sous-vêtement d'entraînement ou dans leur couche en tissu toute la journée. Et donc Andrea a écrit une partie du livre, et elle a aussi des cours sous format digital dessus, si tu veux juste suivre le cours, sur le fait de conclure le C, terminer le process, et laisser les rênes avec tous les outils dont ils auront besoin pour apprendre l'usage du pot. Et ce qu'elle a fini par faire, c'est prendre ce process et le transformer en un livre sur l'apprentissage de la propreté. Parce que c'est plus ou moins la même chose. Avec le C, tu peux commencer le process à 6 ou 9 mois, commencer à leur apprendre toutes ces étapes et les outils pour que d'ici à ce qu'ils atteignent les 18 mois, ils ont acquis la plupart. On faisait ça. Ce qui manque actuellement avec mon bébé, elle oublie, elle s'entraîne toujours, à baisser son pantalon. Donc, parfois, elle va aller sur le pot et elle a toujours son pantalon sur elle. Bon, elle a déjà compris une grosse partie du process. Et tu commences à leur enseigner au fur et à mesure, et quand tu arrives au point où il est temps de conclure, ils ont tous les outils, et ça devient surtout une ou deux journées d'apprentissage autour du pot et de se concentrer là-dessus. Mais si tu n'as jamais fait de ici du tout, et que ton bébé a un ou deux ans ou quatre, tu peux faire tout ce process sur une durée très courte, et c'est l'apprentissage de la propreté avec les toilettes. C'est comme une période d'essai quand tu obtiens un nouvel emploi. Ils vont te montrer comment faire chacune des tâches et t'apprendre comment les faire. Donc ça c'était le gros piège de l'EC, genre dans les débuts d'année 2000. Donc Andrea a fait un grand pas dans le domaine d'éduquer les gens sur le besoin de clôturer le process. Certains parents ont de la chance et ça arrive de façon naturelle, ils n'ont pas besoin de faire un temps d'entraînement, mais certains parents laissent le process traîner et les enfants finissent par porter des couches de toute façon. Donc, et ensuite, ça devient... même si ce n'était pas pour rien, on le ressent comme s'ils avaient fait ça pour rien.
Oui, je comprends, c'est tellement personnel. Tu vas vraiment développer la communication avec ton enfant de toute manière, pour être encore plus connecté avec lui. Mais c'est un process assez beau, hein, je suis sûre que ça aide le bébé, il sera peut-être plus connecté avec son corps. Je pense qu'on a vraiment besoin de ça pour nos générations futures, et ça manquait vraiment avant. D'où l'intérêt du EC, car même quand tu seras adulte, ça continuera à te servir dans le sens où tu auras développé une connexion déjà avec toi-même, avec tes besoins, avec les signaux de ton corps, avec ta physiologie, et c'est vraiment important.
Oui.
Il faut respecter les signaux de son corps.
Pour nous, ça va de pair avec tout ce qu'on appelle, nous ici, l'éducation positive ou l'éducation naturelle. J'apprends à mes enfants à toujours écouter et faire confiance à leur corps. Et je leur dis que je fais confiance à mon corps. Donc s'il fait froid dehors et que je leur dis « Est-ce que tu veux un manteau ?» et mon enfant de 5 ans dit non, je lui fais confiance qu'il n'a pas froid. Bon, par contre, je vais prendre le manteau au cas où il change d'avis.
Ouais, mais tu le laisses.
Mais je ne vais pas le forcer à le porter. Et s'ils ont faim, on parle d'écouter leur ventre, écouter son corps. Et il me dit l'autre jour « Mon ventre ne parle pas. » Mais on écoute nos corps et on vérifie et on dit « Est-ce que j'ai fini ? Est-ce que j'ai fini de manger ? Est-ce que j'ai besoin de plus de nourriture ? Est-ce que j'ai soif ?» Et donc, ça va de pair. Ça fonctionne avec ça. Est-ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes ? Hier soir, mon enfant de 3 ans, on a eu une réunion de famille et elle avait beaucoup bu du jus, du soda, tout ça, enfin, tu vois. Et elle s'est couchée très très tard. Et elle a eu un accident dans son lit hier soir parce que je lui ai demandé, comme je le fais tous les soirs, est-ce que tu as besoin d'aller aux toilettes ? Et elle m'a dit non. Mais c'est son envie d'indépendance du moment. Elle n'avait pas envie, elle a dit non. Donc elle n'y est pas allée et c'était une erreur. Et cette erreur est tellement importante parce qu'elle a appris. Moi, je peux lui dire tous les jours ce dont son corps a besoin. Mais elle ne va pas l'apprendre tant qu'elle ne le fera pas pour elle-même. Donc ça peut être très dur pour pas mal de parents à réaliser. Même moi, même avec un troisième bébé. De lâcher du lest. Mais vos enfants vous le rappellent, encore et encore. Ils vous rappellent qu'ils ont besoin de traverser le process par eux-mêmes, encore et encore. Et c'est pareil avec l'apprentissage du pot quand ils terminent l'EC. Leur passer le relais de la gestion de cette tâche, c'est leur propre process. Et quand les parents essaient trop de le contrôler, ça devient difficile.
Je suis sûre que certains de nos auditeurs vont se dire « Oui, bah c'est bien beau, hein, mais ça va prendre trop de temps, c'est compliqué. » Mais en réalité, ça n'est pas vrai, non ?
Exact. Donc, beaucoup de monde pense que tu dois rester à la maison avec ton bébé, que tu dois être avec eux en permanence et leur prêter attention aux signes d'évacuation tout le temps. Et comme j'ai dit, ça peut être très néfaste. Il y a quelque chose qu'on appelle le concept du continuum dans l'éducation. Ou plutôt qu'ajuster ta vie autour du bébé, tu apprends au bébé à faire partie de ta vie. Tu leur montres ce qu'est la vie moderne, en les trimballant. C'est ce qui est important de faire avec l'EC et tout le reste. Mais on a beaucoup, beaucoup d'histoires de succès avec des parents qui ont pratiqué l'EC à temps partiel parce que l'enfant est à la crèche et la crèche ne le comprend pas vraiment. Et Oui, il y a quand même des succès avec des parents qui travaillent, qui ont un emploi du temps séparé, si vous avez une nounou, n'importe quel mode de vie, vous pouvez faire de l'EC. De l'EC à temps partiel, c'est quand même de l'EC. Tu profites des bénéfices quand même. Tu profites du fait de sauver l'environnement, d'économiser les couches, économiser de l'argent. Tu profites du bénéfice de garder cette connexion avec ton bébé et de maintenir la connexion entre leur cerveau et leur corps. Tu vas probablement avoir une facilité lors de l'apprentissage du pot, quand ce moment arrivera. C'est pas une garantie que ton enfant ne porte plus de couches plus tôt que d'autres enfants. Parce que, encore une fois, les parents doivent décider qui vont passer le relais. Ils doivent décider qu'ils vont laisser la tâche à l'enfant. Donc s'ils s'y accrochent trop longtemps, ça va prendre plus de temps. Et ça dépend de la personnalité de l'enfant aussi. Mais tu peux éviter beaucoup de choses en pratiquant l'EC à temps partiel, à n'importe quel âge. Comme le fait de retenir ses selles. Certains enfants se retiennent tellement longtemps que ça en devient un problème médical. On évite la peur du pot. Beaucoup d'enfants ont peur de s'asseoir sur le pot, parce qu'ils ne l'ont jamais fait, de toute leur vie. Donc, tu te donnes plus de chances de succès, même si tu n'attrapes que un par jour, même si c'est juste le pipi du réveil matinal, quand ton bébé se réveille le matin, et c'est tout. Certaines personnes utilisent l'EC pour les selles, parce qu'ils ne veulent pas nettoyer de caca, et comme j'ai dit, c'est une prise facile à remarquer.
Parce que les bébés font plus de caca parfait quand on pratique
l'EC. Oui, ils le font. C'est... Tu ne l'as pas étalé de partout. Mais aussi parce que leur système digestif et leur intestin sont encore nouveaux. Quand ils commencent à manger des aliments solides, c'est beaucoup plus propre. Comme ta chienne. Tu n'as pas besoin d'essuyer ta chienne. Parce qu'il y a une programmation de ton intestin qui le rend propre. Si tu trouves que c'est salissant, c'est parce qu'il y a un problème avec ton système digestif qui a besoin d'attention. Mais les bébés sont parfaits et tout nouveaux. Et ils commencent à manger des solides. Et parce qu'ils sont assis sur les toilettes, la lingette ressort toute propre. Et la plupart du temps, donc... Ouais, c'est très sympa.
Ah, c'est sympa. C'est un bon argument.
Oui. Comme je t'ai dit, beaucoup de gens hésitent. Et ils vont être conquis quand tu leur dis « plus de caca explosif ». Plus de couches remplies de caca et disent « Ok, c'est bon ».
Oui. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients à l'EC ?
Encore une fois, ça va dépendre de ta situation. Nous, on trouve que c'est plus difficile si tu pratiques l'EC à temps complet. Ça peut être plus difficile pour trouver des solutions de garde, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à apprendre. Avec notre plus jeune, on a fait majoritairement à temps partiel. À la maison, c'était à temps plein, mais quand elle était chez les grands-parents, elle portait des couches, il n'y avait pas de souci. C'était pour des durées courtes, et on s'entraînait à la maison, et on posait les bases, donc tout allait bien. Mais quand elle a commencé à marcher autour de ses 1 an, j'ai décidé qu'on n'allait pas attendre. On n'allait pas attendre les 18 mois ou 2 ans pour l'apprentissage du pot. Je voulais juste complètement lâcher les couches et en finir. Et ça fait peur à plein de monde. Un enfant de 1 an qui utilise le pot, elle ne parlait pas encore, elle faisait un peu de langage des signes. Et les gens sont habitués à un bébé qui parle, qui marche. Excuse-moi. Voilà, un bébé qui parle et qui marche et qui est capable de dire « j'ai besoin d'aller au pot ». Et qui peut aller sur les toilettes ou qui n'aura besoin que d'un peu d'aide. Donc ça fait peur à beaucoup de gens. Ma mère, parce qu'on est très proches, passe beaucoup de temps chez nous et avec nous. On a fait l'expérience de l'apprentissage du pot avec mon deuxième bébé à 18 mois tout pile. Elle en voulait plus. Donc maintenant, ma plus jeune a 18 mois et j'ai dit à ma mère récemment, elle a le même âge qu'avait ma deuxième quand elle a terminé les couches. Et elle me dit, non, elle était plus grande. Et elle est persuadée. Parce qu'on apprend qu'ils sont plus âgés quand ils arrivent à faire ça. Donc ça peut être très difficile. Trouver d'autres gens, si c'est un besoin que tu as, pour pouvoir aider. Et ça va dépendre de ta famille. On a un guide pour les aidants, dans les téléchargements du livre, où tu peux indiquer les signaux de ton bébé, les temps de transition, le rythme naturel. quelle fréquence après le sommeil ou le manger. C'est tout un... C'est quelques pages, mais c'est tout un guide d'instruction que tu peux donner à ta crèche ou ta nounou. On a beaucoup de chance d'avoir une amie qui est une nounou. Et elle nous aide de temps en temps car elle est en plein apprentissage du pot avec des enfants plus âgés. Et elle est déjà venue, elle a appris, elle est en mode OK. Elle a appris les signaux de non-bébé et maintenant elle les maîtrise et c'est très pratique pour nous.
Ouais, complètement.
Mais oui, voyager peut être difficile pour certaines personnes. Beaucoup de fois, certaines personnes vont avoir l'impression que l'enfant suit très bien, puis après ils partent en vacances en famille, et ensuite ils perdent le fil ou... Comme tout, t'as un autre bébé, un autre frère et sœur. Même si ton enfant va aux toilettes, même s'il a 3 ou 4 ans et va sur le pot, quand t'amènes un nouveau bébé à la maison, ils peuvent parfois régresser un peu. Mais il y a bien sûr quelques difficultés. En général, ils sont centrés autour de ton mode de vie, ou même ils vont devenir très peau-centrés. Si t'es le type de personne qui est perfectionniste, tu peux facilement tomber dans ce piège. Donc c'est important de le remarquer, tu vois. Tu veux pas que ça prenne le dessus.
Note à moi-même.
Oui. Ne laisse pas prendre le dessus sur ta vie.
Oui, oui, exactement. C'est une belle leçon.
Et je pense que c'est plus un côté négatif avec notre culture. Pas que le C. C'est pas que, tu vois, que le C ne soit pas quelque chose de génial. C'est plutôt que c'est difficile à intégrer dans notre culture moderne. Mais c'est pour ça que j'adore des podcasts comme le tien où tu en parles à tes auditeurs, donc merci.
Exactement, partager des informations mais aussi ne pas s'ajouter trop de pression pour ne pas stresser davantage notre propre physiologie, juste trouver des solutions pour se sentir mieux, oui. Découvrir d'autres possibilités pour nos bébés, pour qu'ils se sentent mieux, ouais, ça serait pas mal. Oui. Mais ne tombe pas dans le piège de la pression.
Ne le fais pas.
Est-ce que ça marche avec tous les bébés, même ceux qui ont le syndrome de Down ou par exemple s'ils sont autistes?
Oui, absolument. Nous avons beaucoup d'histoires de succès avec des parents qui ont des enfants avec des retards d'apprentissage, des bébés qui passent du temps dans les NICU, unités de soins intensifs néonataux. Je ne sais pas si c'est le même mot dans l'hôpital après la naissance. Ils passent du temps dans le service de soins intensifs. Nous avons eu beaucoup de succès. Il y a différents paramètres, bien sûr, mais c'est très intéressant parce que ça se réduit à l'instinct. Beaucoup de ces enfants qui sont porteurs du gène de la trisomie 21 ou qui sont autistes, ou l'autisme est connu pour donner du mal aux enfants à acquérir le langage. Genre, ils ne parlent pas ou c'est difficile pour eux. Mais t'as pas vraiment besoin du langage pour le C. C'est tellement instinctif et c'est très physique que ces enfants, bon, ça peut leur prendre un peu plus de temps, mais ils peuvent absolument voir les bénéfices de l'EC. Et on a quelques articles sur le blog d'une mère qui avait, il me semble, ses deux enfants dans le NICU avec quelques retards. Et elle a eu des succès, elle raconte son histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'un de ses bébés devait subir quelques opérations. Et ce qui est frustrant, c'est que l'hôpital refusait, alors qu'il était complètement entraîné au pot, en train de dire « je dois y aller », il refusait d'enlever la couche pendant qu'il était à l'hôpital. Ce que je peux comprendre pour l'hygiène et les normes sanitaires, mais c'était difficile pour eux parce qu'ensuite, ils devaient rentrer chez eux et ils pleuraient parce qu'ils ne voulaient pas la couche. Et quand ils rentraient des séjours à l'hôpital, ils devaient tout recommencer, mais ils avaient les outils, ils avaient le process. Ils savaient que c'était un succès, ils avaient la confiance. Donc, ça leur prenait environ une semaine. Et ils arrivaient à lui enlever la couche à chaque fois. Donc oui, absolument, ça peut fonctionner pour tous les enfants. Peut-être pas à temps plein. Et peut-être qu'ils utiliseront des couches toute leur vie. Mais tu peux quand même en tirer des bénéfices.
Tu parlais des bénéfices, mais je me demandais si ça améliorait le dodo et l'allaitement. Parce que je crois que j'en ai entendu parler.
Oui, c'est tout à fait possible. Comme j'expliquais, mon dernier enfant, à un certain moment, s'agitait beaucoup la nuit et se réveillait parce qu'elle devait aller aux toilettes. Donc, si je n'avais pas été au courant pour le C et si je n'avais pas su d'y penser, on aurait juste été réveillé, elle aurait été agitée et j'aurais beaucoup moins dormi, tu vois. Donc, c'est un outil de plus dans ta besace de pouvoir intégrer et utiliser pour résoudre les problèmes. Et ça me fait beaucoup de peine pour tous ces parents qui se sentent perdus à propos de certaines choses, qui vont arriver à une phase où le sommeil, c'est un énorme challenge. Et peut-être que la raison n'est pas les toilettes, le fait que le bébé aille sur le pot n'est pas la solution, mais peut-être que ça l'est. Donc juste l'avoir comme option, c'est super utile. Et concernant l'allaitement, je pense, en général, être synchro avec les signaux de ton bébé, c'est utile, mais... Mais tu vois, ça va de pair avec tout le fonctionnement. C'est un rythme, tu vois. Quand tu allaites et que ton bébé se règle sur toi, il ne régule pas seulement ce qu'il mange, mais aussi ce qu'il évacue. Et donc toi, en tant que la mère, voilà, moi je dors avec mon bébé, on fait du cododo, c'est complètement... Enfin, tout ça, c'est fait pour aller bien ensemble. Donc c'est encore une fois une très belle façon en plus de créer des liens avec son bébé.
Oui, complètement. Très intéressant. Oui, ça me convient. Dernière question pour finir, pour parler de ton histoire. As-tu connu des difficultés de ton côté avec le C ?
Ouais. C'est pas facile ou parfait tout du long, mais comme j'ai dit, avec mon premier, j'avais peur de commencer parce que je pensais pas que j'étais prête. Je pensais pas avoir tout ce dont j'avais besoin. Je t'ai dépassé. Ça arrive beaucoup avec de nouveaux parents. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps. Mais ma très bonne amie qui m'a enseigné le C avec son premier bébé est venue me voir et elle m'a dit « Tu peux y arriver ». Elle m'a donné cet encouragement et elle m'a aidé à mettre mon bébé sur le pot. Et depuis, j'étais capable d'attraper son pipi du matin et parfois son caca tous les jours pendant quelques mois. Et c'était super. Maintenant, avec ma plus jeune, c'est la seule où je l'ai fait aussitôt après la naissance. Donc j'ai pu vivre la totalité du parcours. Et c'est top en tant que coach de pouvoir expérimenter directement ce que traversent les parents. Mais on a définitivement eu des phases où elle faisait tout le temps pipi dans sa couche, où on a eu beaucoup d'urine sur le sol. Et je me suis juste appuyée sur mes acquis. Et je sais que peu de gens ont la même expérience que moi, étant une coach certifiée à arrêter les couches. Donc tu vas relire ton livre, tu vas dans la section « Résoudre des problèmes » ou tu vas sur notre communauté de parents en ligne et tu te dis « Au secours !» et demande ce qui se passe. Mais je suis restée constante, on a réajusté, on a changé la solution de secours ou changé un peu notre planning ou on s'est appuyé sur ces quatre prises faciles pour attraper ce qu'on pouvait quand on traversait cette phase. Parfois, c'est les dents, des fois, c'est les dents, ils sont malades. Il y a plein de choses. C'est un corps tout entier, il y a plein de choses qui peuvent le perturber. Et on a juste continué. Et en même temps, je peux comprendre pourquoi certains parents vont atteindre, on appelle ça une pause toilette. Ou certaines personnes vont appeler ça la grève des toilettes. Donc ça devient très difficile pendant un certain temps. Et je comprends pourquoi certains parents font une pause. Je comprends pourquoi ils remettent des couches pendant quelques semaines ou attendent plutôt qu'ils soient plus grands. Je sais de par mon expérience et de par ma formation que t'as pas besoin de faire ça, que c'est possible de surmonter ces difficultés. Mais tout le monde a des vies différentes. Tout le monde, j'ai de la chance de pouvoir rester à la maison avec mes enfants. Mais si je le pouvais pas, elle serait peut-être en couche jusqu'à après maintenant, quand on ferait de l'apprentissage de propreté. Donc c'est pas tout beau, tout joli, comme on dit, mais ça peut être difficile. Mais ce que j'aime de la communauté de Go Diaper Free, c'est qu'il y a une foison de ressources dans la communauté en ligne. On a plein de sujets sur les soucis qu'on peut rencontrer, sur le site ou dans le livre. Et on a des coachs comme moi qui sont plus qu'heureux de travailler avec toi, peu importe le souci.
Où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter, etc., etc.
Je suis sur le site godiaperfree.com, godiaperfree.com/thepotymama, thepotymama, aussi sur Instagram @thepotymama. Et quand tu rejoins la communauté Go Diaper Free, nous avons un mode de recherche de coach, on a des coachs partout dans le monde. Donc, même si tu ne parles pas français ou anglais, tu peux trouver des coachs partout et c'est une super communauté. Et peu importe où tu te trouves, on veut que les gens viennent à nous, même si ton enfant a 3 ans et que tu veux faire l'apprentissage du pot. Peu importe si tu l'as déjà essayé et que ça n'a pas marché. Peu importe si tu as 5 enfants et que tu as utilisé des couches à temps plein avec les autres enfants et maintenant tu veux essayer avec le dernier. On accueille tout le monde parce qu'on connaît les bénéfices et on pense qu'ils peuvent être accessibles à tout le monde.
Ouais, j'aime bien entendre que ce n'est jamais trop tard, que tu peux commencer quand tu veux ou quand tu peux.
Tant mieux.
Ça fout moins la pression. Ok, cool, merci beaucoup Nicole, c'était vraiment intéressant. Et tu sais, j'en avais jamais entendu parler avant, il y a un an je crois. Parce que je ne suis pas mère et je ne m'étais pas trop intéressée au sujet.
Oui.
Mais je le serai un jour et moi qui suis à fond dans l'écoute de mon corps, l'augmentation de la connexion avec mon corps, l'environnement externe, les besoins, ça fait tellement de sens d'apprendre à se connecter avec ses propres besoins dès le plus jeune âge. Donc c'est un super sujet avec plein d'avenir à ajouter dans notre quotidien si on le sent.
Merci beaucoup Léna, merci pour ta plateforme et de parler de ce sujet à tes auditeurs. Et j'espère que beaucoup vont entendre ce podcast et vont se sentir encouragés.
Ouais. Merci beaucoup Nicole.
Merci.